Des réunions régulières avec les partenaires calédoniens, c'est la volonté du Premier ministre pour faire avancer le dossier calédonien. C'est ce que nous a dit le député Nicolas Metzorf, qui était ce matin notre invité. La situation politique sera aussi au cœur de la chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir, que vous retrouverez dans ce journal. Les faits divers et garde à vue toujours en cours pour l'auteur présumé d'un coup de couteau mortel à Wano ce week-end. Un jeune homme de 20 ans est mort poignardé. Au Moyen-Orient, après l'échec des négociations entre Américains et Iraniens, la tension reste vive. Donald Trump menace d'imposer un blocus sur le détroit d'Ormuz. Et puis en métropole, le Premier ministre ouvre un débat sensible. Une possible extension du travail le 1er mai, à peine émise, l'idée provoque une vive réaction des syndicats. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal qui sera prolongé par le magazine des sports du lundi. Bonjour Mickaël Juneski.
Bonjour Jean-François.
Une riche actualité sportive. On parlera notamment cyclisme avec une belle victoire du Belge Wout Van Aert sur le 123e édition de Paris-Roubaix.
Oui, sur les pavés, l'exploit. Wout Van Aert qui a décroché un succès de prestige sur une épreuve qu'il n'avait jamais gagnée. Il a surtout privé dans l'enfer du Nord Tadej Pogacar d'un succès qui manque également à son palmarès, alors que le cannibale slovène voulait faire main basse cette année sur les grand monument du cyclisme. Le meilleur français Christophe Laporte s'est classé 5e.
En rugby, c'était week-end de Coupe d'Europe et l'UBB fait chuter Toulouse.
L'UBB bête noire des Toulousains. L'Union Bordeaux-Bègles qui s'impose encore une fois sur Toulouse en quart de finale. Donc l'année dernière, les Girondins avaient déjà sorti Toulouse dans le dernier carré. Cette fois, l'UBB l'a emporté sur le champion de France en titre pour se hisser en demi-finale sur le score de 30-15.
Nous évoquons aussi la victoire de Rory McIlroy sur le Masters de golf. Deuxième victoire consécutive. Seuls deux grands champions l'ont fait avant lui. Tiger Woods, Nick Faldo ou encore Jack Nicklaus. Et puis sur le territoire, nous parlerons d'un événement à venir le 26 avril avec notre invité Pro Evans.
Oui, Pro Evans qui donne rendez-vous au trailer le dimanche 26 avril pour une nouvelle édition du Blue Bat Trail. Plusieurs parcours encore une fois proposés dans cet événement éco-engagé, bien connu des coureurs. Les départs se feront du Yala Range. Nous en parlerons donc avec Julie Prunet, l'organisatrice.
L'actualité politique à la une, si le FLNKS refuse d'ouvrir le corps électoral, nous ne négocierons plus avec lui. C'est ce qu'affirme le député Nicolas Metzorf, qui était notre invité du matin, 48 heures après son retour de Paris, Elisabeth Noir.
Après une séquence très dense pour le député de la première circonscription qui a défendu la réforme constitutionnelle devant l'Assemblée nationale et qui, après l'adoption de la motion de rejet, a participé en présentiel à Paris, puis en visioconférence depuis Nouméa aux réunions organisées par le Premier ministre. Une nouvelle réunion aura lieu dès ce soir, nous a-t-il dit, une troisième. C'est la méthode choisie par Sébastien Lecornu pour garder le lien. Personne n'avait communiqué après la dernière réunion vendredi soir et Nicolas Metzorf indique que la seule certitude, c'est que les élections provinciales seront convoquées avant le 28 juin et que toute la question est de savoir avec quel corps électoral elles auront lieu. Lors de cette réunion, le Premier ministre a présenté les trois scénarios possibles. La première hypothèse, c'est le maintien du gel du corps électoral. La deuxième, c'est l'ouverture aux natifs, aux conjoints et aux personnes présentes depuis plus de 15 ans, comme cela est prévu dans Bougival. Et la troisième, c'est de discuter avec le FLNKS pour trouver une solution intermédiaire. Mais le député de la première circonscription s'interroge sur la crédibilité du FLNKS et sur l'intérêt de discuter avec lui pour tenter de trouver un consensus.
Mais c'est là où il y a problème. Consensus avec qui? Parce que si on attend le consensus avec le FLNKS, mais on sort de là avec rien du tout. Parce que le FLNKS, lui, il aura beau jeu de dire, ben nous, on veut rien dégeler. Le gel du corps électoral est constitutionnalisé, l'accord de Nouméa reste en place, donc nous, on veut pas toucher le corps électoral. Moi, ce que je voudrais dire là-dessus, de manière très simple au FLNKS, s'il nous écoute, c'est que, attention, si le FLNKS ne fait pas d'efforts sur l'ouverture du corps électoral, si on nous explique qu'en fait, on continue de rejeter le vote de milliers de personnes, mais nous, vous savez quoi? Ils vont nous attendre aux négociations. Hein. Nous, c'est fini parce que on ne va pas aller continuer de s'asseoir autour d'une table où les mecs en face de nous ne prennent que nos concessions et ne font aucun effort. C'est-à-dire que nous, c'est très simple, il n'y a pas aujourd'hui de transfert de compétences possible de la France vers la Nouvelle-Calédonie pour les régaliennes. Donc nous, on va dire stop, on est français, on ne bouge plus. Les concessions qu'on a faites dans l'accord de Bougival sur l'État, sur la double nationalité, sur le transfert des compétences possibles par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie, c'est parce qu'on avait obtenu des choses sur une meilleure répartition des sièges au Congrès, l'ouverture du corps électoral, le renforcement du pouvoir des provinces. Mais aujourd'hui, si on n'a plus tout ça, pourquoi nous on ferait des concessions?
Il n'y a plus de possibilité de transfert des compétences régaliennes, il n'y a plus de référendum d'autodétermination. Ce sont des éléments que le FLNKS doit prendre en compte, relève Nicolas Metzorf, qui affirme que les loyalistes et le rassemblement ne feront plus d'efforts.
C'est-à-dire qu'on ne peut plus faire de référendum pour transférer des compétences régaliennes à la Nouvelle-Calédonie ou même solliciter le Congrès pour transférer ses compétences à la Nouvelle-Calédonie. Donc très bien, le FLNKS ne veut pas faire d'efforts, ok, mais nous on est français ad vitam aeternam.
Ça veut dire que s'il y a des provinciales avec un corps électoral gelé, vous refusez ensuite de discuter avec...
Ah c'est fini. Alors là, ils vont m'attendre. Hein. Ah non, mais je vous le dis, moi, je ne vais pas passer ma vie à aller discuter avec des gens qui ne veulent faire aucun effort envers la majorité des Calédoniens qui sont non-indépendantistes. Très clairement, je le dis. J'ai vu qu'on nous avait reproché de faire la chaise vide pour ces réunions. Mais la chaise vide, c'est aussi un rapport de force. C'est-à-dire que nous, on a toujours été les bons élèves dans l'histoire. On a participé à toutes les réunions, même quand le FLNKS boycottait, même quand le FLNKS nous insultait, même quand ils avaient prévu de venir avec bichouter, etc. Nous, on a été toujours les gentils et on faisait des efforts. À la fin, c'est quoi le bilan? Ils veulent aller aux élections provinciales avec un corps électoral gelé. Ben, vous savez quoi? Maintenant, c'est stop. On arrête les frais. Si le FNKS ne veut pas faire d'efforts, nous, on n'en fera pas non plus.
On se dirige donc vers des élections provinciales avant la fin juin, avec vraisemblablement un corps électoral gelé. Mais Nicolas Mézenc décline toute responsabilité des partisans de la France. Ce sont, dit-il, les parlementaires qui seront responsables.
Je crois qu'aujourd'hui, ce qui empêche l'ouverture du corps électoral, c'est pas la position des loyalistes, c'est le Parlement. Enfin, si on doit remettre les choses dans leur contexte, pardon, mais que la France, quel que soit d'ailleurs le Parlement et sa composition, soit incapable, après 3 référendums en Nouvelle-Calédonie, de redonner le droit de vote à des Français en Nouvelle-Calédonie, c'est qu'il y a un problème avec la France aussi. Est-ce que je veux dire? Moi, j'ai pas l'impression de pas avoir combattu pour l'ouverture du corps électoral. On peut me reprocher beaucoup de choses, mais je crois qu'on a laissé du sang et des larmes sur le champ de bataille. Mais si le Parlement de la République française, Rassemblement National, droite républicaine, Macronie, Parti Socialiste, j'exclus l'extrême-gauche, hein. Mais si tous ces partis-là, après 3 victoires des non-indépendantistes pour valider que l'Académie soit française, soient incapables de redonner du droit de vote des Français en Nouvelle-Calédonie, pardon, mais il faut se poser la question de l'état de la France. Hein. Et moi, je ne me sentirais pas responsable du manque d'ouverture du corps électoral, je pointerais plutôt la responsabilité de la République.
Nicolas Mézenc relève aussi au passage le changement d'attitude de Marine Le Pen, qui est désormais favorable à une ouverture du corps électoral, mais seulement en cas de consensus. Et il y voit une conséquence de la mobilisation des Calédoniens contre le gel du corps électoral. Et puis lors des discussions avec le Premier ministre, il a aussi été question de la consultation sur l'accord de Bougival. Elle pourrait avoir lieu en même temps que les élections provinciales ou après le scrutin. Le député affirme en effet que l'accord de Bougival n'est pas mort, puisqu'il doit revenir devant le Sénat. Une interview de Nicolas Mézenc à retrouver en audio et vidéo sur notre site internet.
Et dans un autre domaine, Nicolas Mézenc a annoncé la réunion du Conseil politique de Génération NC samedi au Mont d'Or pour dresser le bilan des municipales, pour préparer les provinciales et pour renouveler le bureau du parti. Il devrait garder la présidence de Génération NC et il prône une stratégie d'union des partisans de la France pour les prochaines élections provinciales. La situation politique est bien sûr au cœur de votre chronique de la semaine écoulée, Elisabeth, que l'on retrouve comme chaque lundi dans ce journal.
L'un des charmes de la Nouvelle-Calédonie, c'est que l'on n'y est jamais au bout de ses surprises et que l'imprévisible, l'inattendu, voire l'improbable, y est toujours possible. On en a eu l'illustration cette semaine avec les réunions à géométrie variable organisées par le Premier ministre simultanément à Paris et à Nouméa par la grâce de la visioconférence. Inattendu, ces réunions l'ont été à plus d'un titre. Et d'abord, on se demande qui a formulé les invitations et convié le FLNKS, comme si de rien n'était, à une réunion destinée aux signataires de Bougival. Certes, la délégation du FLNKS avait signé l'accord du 12 juillet, mais elle a retiré ses signatures après avoir été désavouée par sa base ultra. Cette subtilité n'a pas pu échapper à Matignon, ce qui rendait cette invitation d'autant plus incongrue. Mais le plus surprenant dans l'histoire, c'est que le FLNKS, qui ne veut parler qu'avec l'État et qui ne veut parler que de l'accord de Kanaky, a répondu présent. Il est venu avec son président et avec toutes ses composantes pour discuter avec Sébastien Lecornu, que les indépendantistes vouent pourtant aux gémonies depuis le maintien du troisième référendum. Mais surprise pour surprise, ce sont les loyalistes et le Rassemblement qui rejettent d'habitude la politique de la chaise vide, qui ont refusé cette fois-ci de participer à ces réunions et de s'asseoir à la même table que ceux qui sont mis en cause par la justice dans l'organisation des violences du 13 mai 2024. Une position de refus adoptée également par l'UNI et qui a contraint le Premier ministre à jongler mardi et vendredi avec 2 fuseaux horaires, 2 localisations et des formats variables. Et l'un des aspects imprévus de cette séquence, c'est aussi que le Premier ministre a repris le dossier en main, ramenant la Nouvelle-Calédonie à Matignon, comme le veut une tradition établie en 1988. Mais une fois le cadre posé, on ne sait pas très bien ce qui est ressorti de ces réunions improbables. On y a parlé du corps électoral, mais ce n'est pas vraiment inhabituel. Des chiffres ont été révélés pour alimenter le débat, et on sait désormais qu'il y a à peu près 10 000 natifs qui, pour l'instant, ne sont pas inscrits sur la liste électorale spéciale. 6 000 d'entre eux sont de droit commun et 4 000 sont de statut coutumier. On sait aussi qu'environ 37 000 personnes sont exclues du corps électoral et qu'environ 5 500 d'entre elles sont présentes depuis plus de 15 ans en Nouvelle-Calédonie. Cela permet de relativiser l'impact qu'aurait une éventuelle ouverture du corps électoral. Sur cette base, les participants aux réunions ont évoqué globalement 3 hypothèses en vue d'élections provinciales qui se tiendraient avant le 28 juin. Un maintien du gel du corps électoral, une ouverture aux seuls natifs ou une ouverture aux natifs et aux personnes présentes depuis 15 ans, comme le prévoit Bougival. Le plus dur, et là ce n'est pas une surprise, c'est d'obtenir un consensus sur l'une ou l'autre hypothèse. La réputation de négociateur de Sébastien Lecornu est en jeu. Mais il n'est pas aidé, parce que dans la série des événements improbables et incroyables, il y a l'obstination de Manuel Valls qui continue à se répandre à longueur de colonnes et de médias pour donner son opinion et distribuer ses leçons. L'ancien ministre d'État et ministre des Outre-mer n'a pas digéré son éviction du gouvernement et il en veut à mort à Emmanuel Macron et à Sébastien Lecornu qu'il fustige à longueur d'interview. C'est oublié un peu vite que s'il avait réussi, on n'en serait pas là. Et qu'en proposant à Deva la solution d'une indépendance association à des Calédoniens qui avaient dit 3 fois non à l'indépendance, il a compromis durablement le consensus, comme l'a démontré la suite. Il a essayé de se rattraper avec Bougival, mais là aussi il a échoué avec le retrait du FLNKS. Et il avoue d'ailleurs, aujourd'hui, en vouloir aussi au FLNKS. Le dossier calédonien est dans l'impasse et fait du surplace. Mais, comme d'habitude, nous ne sommes sans doute pas au bout de nos surprises.
La chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir, que vous retrouvez évidemment sur notre site internet et que vous réécoutez si vous le souhaitez cet après-midi, juste après le flash de 16h.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici la question du jour. Pensez-vous qu'un consensus va être trouvé sur l'ouverture du corps électoral avant les prochaines élections provinciales? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146. La suite de l'actualité en Nouvelle-Calédonie avec les faits divers et garde à vue toujours en cours après le drame survenu à Wano samedi. On rappelle qu'un jeune homme de 20 ans a trouvé la mort après une rixe sur fond d'alcool, Mickaël Juneski.
Une enquête est ouverte pour meurtre et violence volontaire avec arme. On rappelle que l'auteur présumé des faits, âgé de 24 ans, avait porté des coups de couteau à 2 autres jeunes au cours d'une bagarre qui a dégénéré à Wano. Une première victime, un jeune homme de 19 ans, avait été blessé à la main. La seconde, âgée de 20 ans, avait été gravement atteint au niveau de l'abdomen et avait succombé à ses blessures quelques heures plus tard. L'auteur présumé des faits avait quitté les lieux après la rixe. Il avait contacté les gendarmes durant la nuit pour leur proposer de les rencontrer à la sortie de son domicile à Bouloupari. C'est là qu'il a appris le décès du jeune homme blessé à l'abdomen. Il a été interpellé sans opposer de résistance et placé en garde à vue. Le parquet a ordonné une autopsie. Les investigations seront menées par la section de recherche de la gendarmerie de la FOA.
Et puis la brigade de Thio élucide une affaire de tentative d'extorsion de la SLN. Des faits remontent au 31 mars au 9 avril dernier. Un homme de 58 ans domicilié sur la commune est poursuivi pour des délits d'entrave concertée à l'exercice de la liberté du travail et tentative d'extorsion au préjudice de la société SLN.
Avec une quinzaine d'individus, il a affirmé aux représentants de la SLN que l'accès à la mine du plateau serait bloqué tant que la direction de la SLN n'aurait pas obtenu du juge d'application des peines une renonciation à une condamnation d'un an de prison effectuée sous bracelet électronique. Après cette action, la SLN a retiré son personnel du site. L'auteur présumé a été placé en garde à vue. Il sera convoqué devant le tribunal correctionnel. Le parquet a décidé de mettre à exécution 3 peines d'emprisonnement pour entrave à la circulation sur la voie publique, conduite sans permis de conduire en récidive. Il a donc été incarcéré après ses méfaits.
En bref, l'église protestante de Calédonie, le PKNC, publie ce qu'elle appelle une lettre pastorale destinée aux acteurs de la crise Air Calédonie. Elle appelle le gouvernement, les responsables d'associations et les collectifs, mais aussi les agents personnels, cadres et dirigeants de la compagnie a cherché un terrain d'entente. Cela fait 6 semaines maintenant que les aérodromes des îles sont bloqués par des collectifs opposés au déménagement des vols domestiques de Magenta vers Tontouta. Rappelons qu'Arcal a déposé le bilan pour ouvrir une procédure collective auprès du tribunal de commerce. Une première audience est prévue demain matin. Et puis toujours en bref, le gouvernement salue la mémoire de Jacqueline Brunet-Santerre de La Fontinelle, éminente linguiste française et professeure émérite de langues océaniennes à l'INALCO, l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales. Le gouvernement rappelle qu'elle a passé une grande partie de sa vie à l'étude, la transmission et la valorisation des langues en kanak et particulièrement le wailou. Ses travaux demeurent une référence essentielle pour les chercheurs et les locuteurs des langues kanak. Le gouvernement salue la mémoire de Jacqueline Brunet-Santerre de La Fontinelle, dont l'héritage, souligne-t-il, se perpétue à travers ses enfants Emmanuel et Joël Cazareroux. Il est 11h45, une première pause dans ce journal avant de voir dans un instant l'actualité en métropole et dans le monde.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Paiement par téléphone, gratuit et sécurisé. Munissez-vous de votre carte bancaire et de votre dernière facture. Appelez le 05 36 36, c'est gratuit. Service ouvert de 7h25 à 16h ou 15h le jeudi et le vendredi. Tous les services sur le site EEC.
Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixone Magenta à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixone, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
RRB, 11h, 13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Une page consacrée à l'actualité à l'étranger et après l'échec des négociations ce week-end entre les délégations américaines et iraniennes, la tension reste forte au Moyen-Orient, le cessez-le-feu reste fragile et la situation dans le détroit d'Ormuz est au cœur des préoccupations. L'Iran continue d'imposer sa loi dans le détroit, ce que ne supporte pas Donald Trump qui veut désormais imposer un blocus naval. Wilfried de Villers pour Europe 1.
La situation dans le détroit pourrait bien faire vaciller le cessez-le-feu qui tient pour l'instant tant bien que mal. Donald Trump affirme aujourd'hui avoir ordonné la mise en place d'un blocus maritime américain dans le détroit d'Ormuz.
On va mettre en place ce blocus. Cela va prendre un certain temps, mais il sera bientôt effectif. On ne va pas laisser l'Iran gagner de l'argent, vendre du pétrole aux pays qu'ils apprécient et exclure les autres. Soit tout le monde passe, soit personne ne passe.
Contrôler donc les navires qui entrent et sortent du détroit avec l'aval de l'Iran en ayant payé le péage que le régime iranien est en train de mettre en place. Pour Washington, il s'agit de maintenir une pression maximale sur Téhéran en le privant de son principal levier dans d'éventuelles futures négociations et d'une partie de ses ressources économiques. La réaction des gardiens de la révolution a été immédiate. Ils affirment avoir toujours le contrôle total de la voie maritime et menacent d'y piéger leurs ennemis. Et ils assurent également que les navires civils peuvent y circuler librement. Un nouvel épisode dans cette crise du Détroit dont le contrôle est un enjeu majeur tant pour l'Iran que pour les États-Unis.
Et la situation reste donc tendue autour des enjeux dans le Détroit et c'est la conséquence directe de l'échec des négociations entre les deux parties, rappelle Wilfried de Villers.
Des échanges, il faut bien le redire, historiques, avec un véritable face-à-face entre l'Iran et les États-Unis, mais cela n'a pas suffi. Les deux ennemis ne sont pas parvenus à s'entendre sur nombre de sujets. Hormuz, on vient de l'évoquer, mais aussi le nucléaire. À l'issue des pourparlers, le vice-président américain J.D. Vance a dit regretter l'absence de promesses fermes des Iraniens pour qu'ils renoncent à leur programme nucléaire militaire, affirmant dans le même temps qu'une offre finale a bien été faite à Téhéran. Côté iranien, ce sont les demandes américaines déraisonnables qui ont causé l'échec des négociations, ainsi que le rejet de toute idée de compensation de guerre.
Et notez que d'autres négociations vont s'ouvrir, cette fois-ci mercredi à Washington. Elle réunira Israéliens et Libanais autour du conflit au sud Liban avec le Hezbollah. Actualité à l'étranger marquée aussi par un changement important en Hongrie. Après 16 ans sans discontinuer au pouvoir, le Premier ministre Viktor Orban est poussé vers la sortie. Son parti a perdu les élections législatives et il sera remplacé par Peter Magyar, issu de la mouvance pro-européenne, contrairement à son prédécesseur. L'actualité en métropole avec l'arrivée d'un texte qui va faire débat à l'Assemblée nationale. Les députés vont examiner à partir de demain un projet de loi destiné à rallonger la durée de rétention des étrangers considérés comme dangereux. Texte porté par le député Ensemble pour la République, Charles Rodwell.
Il n'y a aucune raison que ces gens soient en liberté, soient relâchés avant leur expulsion. Nous voulons allonger la durée de rétention de ces personnes, de terroristes, de criminels et délinquants étrangers, afin que ces personnes soient retenues et enfermées jusqu'à leur expulsion et qu'ils évitent de commettre des attaques sur le territoire français avant leur départ. Et moi, voyez, je ne me résous pas à l'impuissance. Je suis convaincu que l'état de droit ne doit pas nous résoudre à l'impuissance, c'est qu'au contraire, on peut parfaitement voter des propositions de loi constitutionnelles et qui nous permettent d'assurer la sécurité des familles françaises.
Et puis, autre débat déjà annoncé, celui-là, par le Premier ministre, pour une possible extension du travail le 1er mai, à peine émise. L'idée provoque une de vives réactions des syndicats. Jacques Serret pour Europe 1.
Officiellement, le gouvernement joue l'apaisement. Sébastien Lecornu promet du dialogue et a demandé au ministre du Travail de recevoir les syndicats. Matignon assure qu'il n'y aura pas de passage en force, mais le calendrier est tel qu'il faut agir vite. Avant le 1er mai, la proposition de loi sur le 1er mai doit permettre le travail de salariés ce jour férié dans des commerces de bouche de proximité comme les boulangeries, les pâtisseries, les primeurs, les boucheries, les fleuristes, mais aussi dans des établissements culturels comme les cinémas et les théâtres. En coulisses, Gabriel Attal met la pression. Le patron des députés macronistes qui porte ce texte a l'occasion de se distinguer d'Édouard Philippe à un an de la présidentielle. Mais le sujet est hautement sensible. Le 1er mai reste un symbole fort et les syndicats, comme les partis de gauche, y voient une ligne rouge. D'où cette stratégie de l'exécutif, avancer mais sans brusquer, pour éviter d'allumer un nouveau front social.
Et puis toujours dans l'actualité en métropole, le préfet des Hauts-de-Seine veut s'attaquer aux dérives dans le périscolaire à Paris. Plusieurs cas de violences sexuelles sur mineurs ont été dévoilés ces derniers mois. Alexandre Bruyère, le préfet des Hauts-de-Seine, a donc annoncé des mesures fortes.
J'ai pris la décision de suspendre systématiquement, à titre provisoire, tout individu qui serait l'objet d'un signalement de violence ou d'abus sexuels sur mineurs, le temps que l'enquête administrative permette de tirer des conclusions définitives.
Et le préfet des Hauts-de-Seine rappelle le rôle des maires dans les embauches. Il doit vérifier les casiers judiciaires des candidats et bien sûr s'assurer qu'ils ne sont pas inscrits sur le fichier des délinquants sexuels.